Au menu de notre club des têtes au carré aujourd'hui, le cosmologue François Boucher va nous dévoiler les nouvelles données du satellite Planck sur les rayonnements fossiles de l'univers. Le psychologue clinicien Joël Swanson va nous dire comment il utilise les téléphones mobiles pour la recherche en psychiatrie. Et puis la navigatrice Isabelle Autissier nous fera passer par le Nord, la nouvelle route maritime qui permet de relier l'Atlantique au Pacifique, un passage très convoité. Et puis la une de la science aujourd'hui, la découverte du plus ancien dessin du monde qui est daté de 500 000 ans, des gribouillis de l'homme de Java, dont on va parler dans un instant avec le préhistorien Francesco De Rico, qui est co-auteur de cette étude qui a fait cette semaine la une du site de la revue Nature. Voilà donc pour le sommaire de notre club des têtes au carré. Vous nous rejoignez bien sûr sur tous ces sujets avec vos messages et vos questions en direct franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Violaine Ballet est aux commandes avec ce dossier qui a été préparé par Sylvain Guilbeault et François Mercier.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Isabelle Autissier, François Boucher et Joël Swanson, bonjour.
Bonjour
à tous les trois. Joël Swanson, félicitations, vous venez de recevoir le prix Marcel Dassault, catégorie chercheur de l'année quand même, pour vos travaux innovants en recherche psychiatrique. Et donc, si j'ai bien compris, grâce à vous, bientôt, je vais pouvoir connaître mon état mental simplement en regardant mon téléphone portable, c'est ça?
C'est tout à fait le cas. Et ouais. les technologies mobiles surmontent toutes les barrières qui caractérisent la recherche clinique et aussi les barrières des soins pour la prise en charge des patients. Donc ça c'est quelque chose qui va révolutionner la recherche et le soin.
On en parle avec vous dans quelques minutes. François Boucher, vous travaillez sur la mission Planck. Comment va notre univers? Les dernières nouvelles sont bonnes a priori?
Alors plutôt, on est content parce que 22 ans après le début de ce projet, on passe la deuxième phase et on commence à dévoiler un autre aspect du fond de l'univers qui s'appelle la polarisation et dont je vous dirai quelques mots par la suite.
Voilà, et puis vous nous donnerez des nouvelles des neutrinos et de la matière noire, tant qu'à faire, puisqu'on vous a sous la main. Isabelle Autissier, vous faites escale dans notre club cet après-midi pour nous parler de cette nouvelle route maritime du Nord que vous avez explorée avec Éric Orsenna. Vous êtes absolument inséparables tous les deux. Hein
bah, après le Grand Sud, on a fait le Grand Nord.
C'est
voilà.
Ça.
C'est un bon compagnon de voyage.
Ouais. Et on va parler avec vous de géopolitique, d'économie et d'écologie. Il y a des enjeux très forts hein, sur ce
c'est
passage.
C'est extraordinaire. Hein. Plus on allait là-bas, plus on allait de surprise en surprise. Des fois, ça fait un peu peur.
C'est ça, extraordinaire et inquiétant. Hein.
Voilà, donc il faut prendre un peu de recul sur tout ça.
Allez, on va se retrouver tous ensemble d'ici quelques minutes avec les messages des auditeurs. À la une de la science aujourd'hui, les gribouillis de l'homme de Java, des gravures donc réalisées par Homo erectus, c'est notre sujet. On imagine qu'Homo erectus hein, parlait comme ça évidemment à l'époque. Une découverte majeure donc dans le monde de la préhistoire. Il s'agirait tout simplement du plus vieux dessin du monde. Découverte détaillée depuis hier dans la revue scientifique Nature. Nous sommes en duplex de Bordeaux avec vous, Francesco De Rico. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez piloté l'équipe internationale de préhistoriens qui a fait cette découverte qui bouleverse, on peut le dire, littéralement les connaissances sur l'art pictural dans l'histoire de l'humanité. Et Francesco De Rico, donc tout se passe autour d'un coquillage avec un gribouillis de quelques centimètres. Où a été découvert justement ce coquillage?
Le coquillage a été découvert par Eugène Dubois, qui était un médecin hollandais qui voulait à l'époque, à la fin du 19e siècle, découvrir le chaînon manquant. À l'époque, était connu que des hommes sapiens comme nous et des néandertaliens. Donc les australopithèques, Homo habilis n'étaient pas connus. Et lui, il est parti à Java en cherchant cet anneau manquant. Il a mené là des fouilles pendant plusieurs années. Il a trouvé Homo erectus, qui avait appelé Pithecanthropus erectus à l'époque. Et par la suite appelé Homo erectus. Il a ramené tout le matériel en Hollande. Au début, d'ailleurs, on ne l'avait pas cru. Et ce matériel est resté au musée de Leiden. Je vous dis, ce n'est pas en effet qu'un coquillage. Il y a plus de 100 coquillages. Et ce n'est que la découverte n'est pas exclusivement liée à la gravure, qui est quelque chose d'intéressant, mais aussi à ce qu'il tourne autour. C'est-à-dire qu'on a pu montrer que ces coquillages, ces moules d'eau douce, étaient ramassés que les grands spécimens par Homo erectus, qui les mangeaient. Ils avaient inventé une technique pour pouvoir les ouvrir sans les casser en pratiquant une petite perforation dans le point d'insertion musculaire du muscle qui garde la coquille fermée. Donc une sorte de premier outil à ouvrir des huîtres, mais bien plus efficace que nos couteaux à huîtres. Il, de temps en temps, il retouchait ses coquilles aussi pour les transformer en outils. Et sur 116 coquillages, il a gravé un coquillage. Donc je dirais que c'est un aspect d'un intérêt pour ces moules d'eau douce de la part de Erectus, une sorte de monde technologique et de subsistance qui nous était inconnu jusqu'à présent.
Oui, Isabelle Autissier, vous vous demandiez tout à l'heure la taille de la moule, hein, c'est ça ?
Oui, déjà je pensais. Et puis qu'est-ce qui grave en fait ? Qu'est-ce que c'est de
voilà.
Qu'est-ce que ça représente ? Moi,
exactement,
je suis curieuse.
Bien sûr.
Voilà, mais c'est des moules assez grandes. D'ailleurs, on a pu, en étudiant la dimension, donc ces moules ont disparu, mais il y a des espèces qui sont assez semblables. Ils font jusqu'à 2 cm de long, donc c'est des moules assez grandes. Qui existent encore en Europe, en Amérique du Nord, et qui sont protégés. D'où la difficulté d'en s'en procurer une pour faire de l'expérimentation, enfin plusieurs pour faire de l'expérimentation et voir qu'effectivement ces techniques produisaient l'ouverture de la moule.
Oui.
Les moules actuelles comme la moule passée est marron et couverte d'une couche de matière organique qu'on appelle périostre. Donc Homo erectus a gravé sur cette couche et il a traversé la couche de matière organique et il a touché la moule la partie cristalline, la partie organique a disparu, donc il ne reste que le tracé qui marque la partie interne.
Oui.
Et c'est pour ça que probablement ce zigzag n'est pas parfait, il manque certaines marques qui peut-être correspondent à la zone où il n'a pas entamé la coquille au-dessus de cette couche organique.
Oui, on a le dessin d'ailleurs hein, sur le site de la Tête au Carré. Pour ceux qui souhaitent voir à quoi ressemble ce zigzag, hein, vous pouvez tout de suite aller vous connecter pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Francisco Derico, la datation, évidemment, 500 000 ans, on l'a dit tout à l'heure, ça bouleverse absolument toutes nos connaissances aujourd'hui. Le plus ancien dessin jusqu'alors était daté de combien à peu près ? 100 000 ans, c'est ça ?
Oui, en Afrique du Sud, on a deux sites sur lesquels d'ailleurs on a travaillé, nous, la même équipe, à 110 000 ans, dans un site qui s'appelle Clysis River et un site qui a donné une gravure assez complexe, abstraite, autour entre 75 000 ans, qui s'appelle Blombos Cave.
Oui.
Il y a quelques traits sur des eaux d'un site qui s'appelle Bildungsleben en Allemagne. Qui sont assez anciens, mais discutés, c'est juste des traits parallèles.
Oui. Alors comment vous faites pour dater ce coquillage et tout d'un coup nous dire, ben voilà en fait le premier dessin, il a 500 000 ans, il n'a pas 100 000 ans, il est beaucoup plus vieux que ça encore.
Oui, en effet, le site était considéré bien plus ancien sur la base des associations phoniques. On pensait que le Trinil datait entre 800 000 ans et 1 100 000. Et c'est justement à l'occasion de l'étude de ces coquillages qu'on a pu montrer qu'en effet, il était plus récent. Et il date que de 500 000 ans. Et on a utilisé deux techniques de datation. Une technique argon-argon qui date des cristaux volcaniques présents à l'intérieur des coquillages. Et avec aussi la thermoluminescence qui date les grains de quartz, c'est-à-dire la dernière exposition au soleil des grains de quartz aussi contenus dans les coquillages. Donc en croisant les deux techniques, on arrive à une date autour de 500 000 ans. Mais bon, ce n'est pas 500 000 ans,
oui.
Il y a quand même une marge d'erreur relativement importante, mais entre 400 et 500 000 ans.
Oui, Joël Swanson.
Oui, c'est une découverte passionnante, mais comment protéger un coquillage pendant 500 000 ans ? C'était découvert dans une grotte ?
Non, c'est découvert dans un site de plein air, mais qui avait un taux de sédimentation suffisamment élevé pour que ces coquillages, comme d'ailleurs d'autres matériaux paléontologiques, y compris les restes d'Homo erectus, ont pu se conserver. Donc, on a des dents de requin, des ossements. En effet, la partie organique du coquillage a disparu. C'est seulement la partie cristalline qui est restée.
Oui. Alors évidemment, Francisco Derico, Homo erectus à l'origine de ce dessin. Donc là aussi, ça nous donne des informations très très importantes aussi sur les capacités cognitives d'Homo erectus. C'est un vrai bouleversement là aussi sur la façon dont on le perçoit, non ?
C'est difficile d'en tirer des conclusions à partir d'un seul dessin, mais ce qui est important, c'est que ce dessin s'encadre dans un contexte d'intérêt de ces populations pour la nourriture d'eau douce.
Mm-hmm.
Et disons, c'est pas un élément séparé de son contexte. On voit qu'il y a des techniques de subsistance qui sont adaptées à ce milieu cet environnement de rivière et en plus cette invention d'une technique pour ouvrir les coquillages, je dirais, crée un ensemble et rend cohérente le fait que sur un coquillage il y a une gravure. Qu'est-ce que cette gravure signifie, naturellement, est encore une question à résoudre.
Oui, évidemment, mais ça donne des indications intéressantes, en tout cas sur, on peut dire, l'intelligence déjà d'Homo erectus, puisqu'il a volontairement, c'est ce que vous nous dites, hein, fait ce dessin. Apparemment.
Voilà, ce qu'on peut savoir sur la base de l'analyse microscopique de la gravure et aussi de sa reproduction expérimentale, c'est que la personne qui a fait la gravure voulait vraiment graver un zigzag. Oui. Et il y a mis une certaine attention, par exemple, bon, les traits ont été faits par le même outil, donc c'est un zigzag qui a été gravé d'une seule fois. Et il a mis beaucoup d'attention, par exemple, à produire des angles qui sont toujours les mêmes et créer une continuité au point de rencontre des angles. Donc, il n'y a pas de distance entre les sommets des angles. Donc c'est vraiment une volonté de graver un motif en zigzag.
Voilà, découverte donc très importante. Homo erectus, ce serait donc peut-être le premier dessinateur pour l'instant de l'histoire de l'humanité. Francesco De Rico, c'est également à vous que l'on doit la découverte d'une gravure réalisée par notre cousin néandertalien dans la grotte de Gorham à Gibraltar. On en avait parlé ensemble et qui avait montré justement que l'art abstrait n'était pas l'apanage d'Homo sapiens. On ne cesse donc de faire reculer les frontières des capacités de l'homme qui nous ont précédés. C'est absolument fascinant. On fait reculer l'âge de l'univers. On va en parler avec vous également dans quelques instants, François Boucher. Mais là aussi, sur les capacités donc, de ces Homo erectus. Merci beaucoup à vous, Francesco De Rico. Et merci évidemment aux équipes de France Bleu Gironde qui nous ont permis ce duplex de Bordeaux. À très bientôt. Au revoir. Dans le reste de l'actualité scientifique, notez que le prix Nobel James Watson, prix Nobel de physiologie et médecine en 62 pour sa co-découverte de la structure de l'ADN, vient de vendre aux enchères sa médaille pour la somme de 4,7 millions de dollars. C'est la première fois qu'une médaille d'un Nobel est vendue du vivant de son lauréat. Le célèbre généticien a avoué vendre sa médaille pour raisons financières. Il avait été très critiqué en 2007 sur ses propos tendancieux sur les Noirs, suite à quoi il a été exclu de plusieurs communautés scientifiques. Le taser animal, on connaissait l'anguille pour être capable de lâcher des décharges électriques de 600 volts pour se défendre ou assommer ses proies, mais un article sur le site de la revue Science dévoile une capacité encore plus étonnante. L'anguille, Isabelle Autissier, ça c'est pour vous, sera en effet capable d'émettre à distance un champ électrique dans l'eau qui va agir sur les motoneurones et forcer la contraction des muscles de sa proie, l'empêchant de fuir. L'anguille n'a plus qu'à s'approcher de sa victime paralysée et elle a mangé tout cru. Une vidéo justement de cette expérience est disponible sur le site de la Tête au Carré. Un nouvel œil pour la Terre, le Conseil de l'ESO vient de donner son feu vert pour la construction de l'EELT, l'œil le plus grand du monde tourné vers le ciel. Ce gigantesque télescope sera construit dans le désert d'Atacama au Chili et les premières lumières sont attendues à peu près dans 10 ans. Et puis un cabinet de curiosité pour les Lyonnais, le journal Libération vous emmène aujourd'hui au musée des Confluences avant son ouverture. 2 millions d'objets répartis sur 4 niveaux vous attendent. Vous allez pouvoir naviguer entre des statuettes chinoises ou égyptiennes, un modèle de Spoutnik ou encore une momie péruvienne. Ouverture des portes donc pour les Lyonnais et tous ceux qui viendront à Lyon le samedi 20 décembre, après quand même 10 ans de retard. Allez, dans un instant, le club des Têtes au Carré.
Aux débutants de l'amour, ma foi, il faut dire la vérité. Il n'y aura jamais plus, je crois, que des bonheurs de papier qui s'envolent et ne redescendent jamais. Ça s'envole, surtout quand c'est un l'été. Les débutants de l'amour, on voit qu'ils sourient à en crever. Car les débuts ont cet atout-là de nous donner chose à rêver. S'il envole, se déroule comme on voulait. Dégringole, notre idylle, le vent levé. Aux débutants de l'amour, la joie, elle est à même, elle est réelle. De beaux dîners, ça y en aura, mais se consume la chandelle. Et s'envole, les souvenirs dans la fumée. Et s'envole, le passé. Aux débutants de l'amour à trois, j'aimerais dire qu'ils vont déchanter, dès la minute où la bague au doigt se sera vu déjà trompé. Qui s'envole, prend le risque de tomber. Ça s'envole, surtout quand survient l'été. Les débutants de l'amour à trois, ou débutants de l'amour tout court, pourront penser qu'à cette allure-là, l'heureuse vie suivra son cours. Mais que l'on vole, des bouts de vie, de paix, d'amour. Tout s'envole, une belle nuit ou un beau jour. Il faut dire la vérité, il n'y aura jamais plus, je crois, que des bonheurs de papier qui s'envolent, qui ne redescendent jamais. Ça s'envole comme le
aux débutants de l'amour, Viennet.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Et dans notre club cet après-midi, les dernières nouvelles de l'univers grâce aux satellites Planck et leurs données, les troubles mentaux directement sur les mobiles et la nouvelle route maritime au centre de tous les enjeux. Mes invités, donc le cosmologue François Boucher, le psychologue Joël Swanson et la navigatrice Isabelle Autissier. Vos messages donc, franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque pour les messages courts. Joël Swanson, vous êtes donc psychologue clinicien, directeur de recherche au CNRS et à l'Université de Bordeaux et vous venez donc de recevoir le Marcel Dassault, chercheur de l'année, pour vos travaux innovants liés à l'usage des technologies mobiles pour la recherche en psychiatrie. Vous travaillez donc depuis plus de 20 ans maintenant, je crois, sur l'usage des technologies pour étudier, soigner les troubles mentaux. Comment ça a commencé pour vous au départ ? Parce qu'il y a 20 ans, on n'utilisait pas du tout nos téléphones comme aujourd'hui. C'était la préhistoire quasiment du mobile.
Tout à fait. Donc, on n'avait pas les smartphones. En fait, c'était il y a 25 ans. Donc, j'ai cherché les différentes options pour que je puisse suivre les gens dans leur vie quotidienne. Parce que, en fait, à l'époque, quand j'ai fait mes études de doctorales, je voulais tester une théorie qui explique pourquoi les gens deviennent anxieux ou dépressifs. Et cette théorie passe par les expériences dans la vie quotidienne, les tracas quotidiens et les pensées momentanées que nous avons face à ces différents événements.
Et ça, on n'a pas moyen de le savoir encore. Enfin, sauf avec votre innovation, mais jusqu'alors, c'était compliqué de suivre au quotidien ces personnes.
Exactement, tout à fait. Donc, maintenant, on a les smartphones ou d'autres outils connectés qui facilitent nettement les tâches. Mais il y a 25 ans, c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez nouvel. Donc, peut-être pour comprendre l'importance des technologies mobiles, il faut commencer peut-être par des mauvaises nouvelles qui concernent les troubles mentaux. Excusez-moi. Et le fait que 50% de la population générale sera atteinte de maladies mentales à un moment ou un autre dans leur vie, que la majorité des personnes qui sont atteintes ne sont jamais soignées. Donc, si on pense à ça, vraiment 50%, donc la moitié des personnes dans ce studio...
Oui, c'est rassurant, merci. On est content d'être venus, Isabelle Autissier, hein, franchement.
Et aussi toutes nos familles. Donc, nos familles seront atteintes quelque part.
Oui.
Donc, c'est quelque chose...
À différents degrés, évidemment.
À différents degrés, bien entendu. Mais on n'a pas l'habitude de penser aux maladies mentales comme les maladies physiques, où tout le monde va tomber malade un moment ou un autre. On a tendance de penser aux troubles psychiatriques et maladies mentales comme quelque chose qui touche peu de gens et qui n'ont rien à voir avec soi-même. Donc, la prévalence de ces troubles, c'est un problème majeur pour la société. Mais le problème fondamental aussi, c'est que le grand frein, à la fois pour la recherche et pour la prise en charge, c'est qu'on ne peut pas accompagner les gens dans leur vie quotidienne pour les aider au moment qu'on les a le plus besoin. Les technologies mobiles nous aident de surmonter ces obstacles, à la fois pour la recherche et pour la prise en charge, pour aider le patient de prendre ses médicaments, pour aider le patient de faire dans sa vie quotidienne les exercices psychothérapeutiques ou pour éviter les facteurs de risque. Ça, c'est quelque chose maintenant qu'on peut faire, on est en train de le faire. L'avenir, c'est maintenant, ce n'est pas la science-fiction.
Donc, l'idée pour vous, c'était de suivre en temps réel ces personnes et donc de mettre au point une technologie via le téléphone portable qui permettrait d'en savoir plus. Alors, comment vous avez fait d'abord pour inventer cette application et puis concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, il y avait plusieurs phases, comme on l'a dit. Il y a 25 ans, ce n'était pas les smartphones. Maintenant, la majorité de ce que nous faisons, c'est avec les smartphones, qui sont préprogrammés pour administrer des entretiens électroniques, hein, très brefs. Chaque entretien prend peut-être 1 minute 30.
Donc, pour la personne malade?
Pour la personne malade, tout à fait. Et ce, pendant 5 fois par jour, pendant une semaine.
Ah oui, quand même.
Donc, tout à fait.
5 fois par jour, il faut répondre à un petit entretien?
Exactement.
De 2 minutes.
Tout à fait.
Mais pendant combien de temps?
Et, par exemple, pendant une semaine. Pour qu'on puisse avoir un échantillonnage, comme si on prend notre épuisette et on prend un petit échantillon des expériences des gens, des symptômes, des facteurs de risque qui augmentent ou qui diminuent les symptômes. Et ça, c'est en temps réel.
François Boucher, vous posez.
Alors, il y a les questions qui sont générales pour tout le monde. On veut comprendre les comportements des gens. Où êtes-vous en train de faire quoi avec qui? Mais aussi les symptômes qui sont spécifiques à cette pathologie ou les mécanismes sous-tendants que nous voulons examiner. Par exemple, pour les patientes atteintes de la schizophrénie, d'examiner y a-t-il un lien avec le survenue des symptômes, des hallucinations ou de l'air dans cette population et, par exemple, la prise de substances, par exemple, le cannabis. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un exemple, mais ça, c'est un exemple qui fait débat. On voit qu'il y a une forte, on peut dire, comorbidité entre la dépendance au cannabis et la schizophrénie. Mais la question, c'est la cause et effet. Est-ce que c'est les gens atteints de la schizophrénie utilisent cannabis pour automédication, pour soulager ces symptômes, ou est-ce que c'est le cannabis provoque les symptômes?
Et donc là, vous avez vraiment un panorama très précis, au fond, hein, des habitudes et des raisons pour lesquelles les personnes et comment elles interagissent, en fait, en permanence.
Hein. Exactement, mais il faut garder en tête que les mécanismes qui causent les troubles mentaux ou qui expliquent la chronicité des troubles mentaux sont les mécanismes qui s'expriment sur des très courtes durées de temps, sur les échelles des minutes ou des heures. Mais en laboratoire, on les étudie sur les échelles des semaines, des mois, voire des années.
Isabelle Lautissier.
En même temps, c'est très intrusif comme méthode, si on pose des questions comme ça. Qu'est-ce qui vous prouve que les gens vous répondent réellement, sincèrement?
C'est vraiment la fiabilité de l'objet. Hein.
Justement. Donc, la première phase avant qu'on puisse utiliser ces technologies, c'est de savoir quels sont les biais. Est-ce qu'ils sont fiables? Donc, nous avons passé notre équipe à Bordeaux, la bonne partie de la dernière décennie, en train de voir dans différentes populations psychiatriques et chez les personnes indemnes des troubles mentaux, est-ce que c'est quelque chose qui est bien accepté? Est-ce que c'est quelque chose qui provoque aussi peut-être des problèmes, des symptômes, etc.? Est-ce que c'est quelque chose qui va changer le comportement des gens si on demande les gens de s'intéresser à eux-mêmes et suivre leurs
expériences? Est-ce que ça va empirer aussi les symptômes?
Alors, c'est la question. Donc, bien entendu, on a validé cette approche non seulement chez les personnes indemnes comme comparaison, mais chez les patients atteints des troubles anxieux, de la dépression, troubles bipolaires, la schizophrénie, les addictions, les patients aussi avec les idées suicidaires. Et dans aucune de ces populations, est-ce que nous voyons un effet nocif? Plutôt le contraire, que les patients disent qu'ils se sentent accompagnés, que les patients disent que c'est une façon de raconter leur histoire d'une manière qui nous échappe à l'hôpital ou dans la clinique. Si je vous pose la question, mardi dernier à 16h36, où étiez-vous?
Voilà, il va falloir que je réfléchisse.
Alors, sur son bateau, sûrement, au bord de la mer.
C'est déjà difficile, mais si ensuite je vous pose la question, quelles étaient vos pensées dans ce moment-là? Quels étaient vos comportements, vos émotions? Ces informations sont perdues pour toujours. Mais ces informations étaient importantes à ce moment-là parce que ça explique les sentiments des gens, les symptômes ou les comportements des gens. Et si on ne peut pas être là pour les mesurer, on ne peut pas rétrospectivement, 3 semaines, 1 mois plus tard, essayer de comprendre l'expérience des patients.
Alors, Joëlle Soissons, justement, ces informations, elles sont destinées à qui? Alors, c'est pour des chercheurs ou pour des médecins, concrètement, qui sont auprès de ces patients?
Alors, il y a encore 2 volets. Donc, il y a un volet recherche où on veut comprendre les mécanismes sous-tendant les troubles mentaux. Et ces informations sont surtout, évidemment, destinées aux chercheurs pour essayer de comprendre. Pour cet exemple que je viens de donner, quel est le lien de causalité éventuel entre la prise de cannabis et les symptômes psychotiques? Si nous savons que c'est automédication, donc le cible devrait être évidemment les symptômes psychotiques, Si nous savons que ce n'est pas automédication, mais le cannabis provoque ces symptômes, évidemment, on a une autre cible thérapeutique. Donc, dans un premier temps, avant qu'on puisse intervenir, il faut avoir les informations claires. Donc, il y a un volet uniquement recherche, il y a aussi un volet clinique, à la fois pour la médecine et pour les patientes, pour aider les patients de suivre ces régimes médicamenteux, pour aider les patients, comme je viens de dire, de faire les exercices psychothérapeutiques, etc.
Et pour le médecin, donc, aussi une base de données pour bien connaître son patient?
Tout à fait. Donc là, ça, c'est la phase maintenant où on est en train de travailler pour que le patient puisse décider de partager ces informations avec son médecin, encore pour donner des informations qui vont échapper le médecin.
Ouais. Est-ce que ce système pourrait aussi déclencher une intervention d'urgence si nécessaire?
Ça, c'est notre souhait maintenant d'utiliser les technologies mobiles justement pour les moments de plus grande difficulté ou de crise. Je pense par exemple aux patients atteints des idées suicidaires. Je travaille avec un professeur de psychiatrie, Philippe Corté,
qui a eu aussi le projet d'innovation.
Exactement, qui est en train justement de développer cette approche.
Et donc, vous allez aussi essayer d'en savoir plus avec des tests cognitifs pour les personnes atteintes d'Alzheimer, par exemple. Donnez-nous un exemple très rapide, c'est intéressant.
Oui, c'est fascinant. Donc, on pense que pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, que les gens vont bénéficier certaines des expériences tout au long de leur vie, de leur éducation, etc. Et donc, sera moins susceptible à un déclin cognitif. Mais nous savons aussi qu'en fait, le cerveau est extrêmement souple et que les activités de la vie quotidienne dans toutes les populations peuvent améliorer le fonctionnement cognitif. Donc, nous avons besoin, pour étudier ça, des tests cognitifs mobiles et aussi de savoir, dans le moment, qu'est-ce que la personne est en train de faire. Et nous avons montré que, par exemple, les activités intellectuellement stimulantes, de lire un journal, de faire un mot croisé, dans les heures qui suivent, ça augmente la performance nésique de ces patientes, mémoire, fluence verbale, etc.
Voilà, Joël Swensen, donc chercheur de l'année, prix Marcel Dassault pour cette innovation. Ben, c'est intéressant quand même, hein. C'est vrai que...
C'est assez fascinant, enfin, c'est assez...
Et utile, étonnant. Apparemment. Donc ça va rentrer dans le commerce quand, a priori? Vous avez déjà une possibilité de le...
Alors justement, nous sommes en train d'essayer de travailler avec différents industriels pour qu'on puisse le diffuser à une plus grande échelle.
Allez, vous restez avec nous, on poursuit ce club dans un instant. Des nouvelles de l'univers avec Planck.
Wishing gon' get me.
Cross My Heart avec Son Little à l'instant sur France Inter dans notre club du vendredi avec nos têtes au carré, Joël Swanson, François Boucher, cosmologue, et la navigatrice Isabelle Autissier qui vient de nous faire un aveu. C'est qu'elle aurait rêvé d'être astronaute.
Bah oui, mais j'ai peur d'être un peu trop âgée pour ça, peut-être.
Mais le tourisme spatial, Isabelle Autissier.
Par contre, là, j'ai pas les moyens carrément.
Oui, c'est ça, c'est un problème de budget.
Il y a toujours un problème.
Ouais, c'est vrai, ça vous aurait fait rêver, ça, d'aller dans l'espace.
J'aurais adoré ça, ouais, ça doit être fascinant.
Oui, le cosmologue aimerait aller dans l'espace, c'est quand même dingue. Oui, parce que vous le voyez depuis vos ordinateurs.
Oui, mais j'aurais aimé aller. J'aime aussi aller sous l'eau. Enfin, on a envie d'aller, de tout explorer, de toute façon.
Oui. Vous avez des étoiles au-dessus de vous, quand même, quand vous êtes en pleine mer, Isabelle Autissier.
Oui, puis on les voit bien. Ça, c'est formidable, on les voit bien, c'est formidable, oui. Parce qu'on n'a pas de lumière parasite.
C'est des lieux privilégiés, justement.
Absolument. Hein.
François Boucher, cosmologue, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous êtes un des responsables de la mission Planck. De nouveaux résultats viennent d'être dévoilés cette semaine à la conférence de Ferrara en Italie. Résultat des 4 années d'observation donc, du satellite Planck de l'Agence spatiale européenne. La quasi-totalité des données seront données quand ? En 2015, c'est ça ? On saura tout vraiment ?
Oui, le leg final, en gros, le moment où le team, l'équipe va se séparer, en gros, ça sera la fin de l'année prochaine. Mais là, on a fait un premier dévoilement d'un type de mesure supplémentaire. L'année dernière, on a donné une cartographie du fond du ciel, des fluctuations du rayonnement cosmologique de fond, ce qu'on dit. Donc, lumière qu'on reçoit du fond de l'univers, des premiers instants. Mais là, on a rajouté quelque chose cette année, une autre propriété qu'on commence à mesurer, qui s'appelle la polarisation.
Voilà. C'est pas la plus simple à expliquer, mais c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Hein. C'est votre mission de nous l'expliquer dans un instant. D'abord, encore un mot sur le satellite Planck. Sa mission, ça a consisté en quoi alors exactement ? Pourquoi on a envoyé ce satellite
alors, c'est
à 150 millions de kilomètres, c'est ça ?
1,5 million de kilomètres. On a proposé ça en 96 à l'ESA pour dire, ben voilà, on va faire une cartographie de toute la voûte céleste, 9 cartes différentes, 9 fréquences différentes, et à partir de ça, on va être capable de séparer les émissions d'avant-plan, c'est-à-dire les émissions de notre galaxie, par exemple, ou de celles qui sont à côté, de la lumière qui vient vraiment du fond du ciel, celle qui n'a eu aucune interaction pendant tout l'âge de l'univers, pendant les 13,8 derniers milliards d'années. Et donc, c'est une lumière qui interagit pour la dernière fois tout à fait au début de l'âge de l'univers. Et donc, elle est témoin, elle a des empreintes, c'est un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, nous, c'est pas une coquille, hein, c'est la lumière qu'on reçoit. Cette lumière présente une apparence un peu grumeleuse de fond du ciel.
Oui.
Et l'analyse de ces grumeaux nous dit des choses du genre, quelle est la vitesse à laquelle l'univers s'étend, quelle quantité de matière il y a. Les grumeaux primordiaux qui vont donner naissance beaucoup plus tard aux galaxies, aux étoiles, nous, tout ça, quel était leur contraste relatif en fonction des différentes échelles. Donc voilà ce qu'on essaye d'obtenir. Et puis, au-delà de ça, on essaye de confronter ces données dans leurs détails avec les prédictions théoriques qu'on peut faire en fonction des développements de la physique au-delà de ce qu'on appelle, nous, le modèle standard, c'est-à-dire on fait des hypothèses minimum. Et puis,
pour prouver la solidité de la théorie. Pour
voilà,
voir si ça fonctionne
toujours.
C'est
quand même quelque chose de phénoménal. On est quand même en train de dire qu'on reconstitue l'histoire de notre univers sur 13,8 milliards d'années, qu'on trouve la trace de processus dans les tout premiers instants après le Big Bang à des échelles d'énergie incroyablement plus élevées que ce qu'on peut faire, par exemple, au CERN, au LHC. Donc, en fait, on est en train de repousser les limites, y compris des lois physiques. Donc, on est en train de dire, et finalement, dans ces conditions phénoménales, très au-delà des échelles d'énergie, de temps, d'échelle, etc., qu'on peut sonder habituellement, à quoi ressemblent les lois de la physique dans ces conditions-là ? Et donc, ce n'est pas simplement mesurer ce qui est, mais c'est aussi mettre à l'épreuve nos idées, notre manière de penser ou de décrire les choses. Et donc, il y a toute une activité qui n'est pas simplement de valider, mais aussi de chercher des failles dans notre compréhension.
Oui.
Et donc,
et pour l'instant, il n'y a pas eu trop de failles, apparemment. C'est plutôt
pour le moment,
solide.
Très peu de failles.
Oui, c'est ça.
C'est assez incroyable.
Oui.
Et un des résultats peut-être les plus remarquables de ce qu'on vient de sortir, c'est qu'on vient d'apporter une nouvelle sonde complètement différente de la précédente. C'est-à-dire, on regarde une autre propriété de la lumière. Pour être plus précis, on mesurait l'intensité. Maintenant, on mesure une autre propriété de la lumière, sa polarisation.
Donc ça, c'est une des nouvelles données, en fait.
Voilà, ce sont de nouvelles données. Il faut des capteurs spécifiques. C'est les premières fois qu'on relâche ces cartes du ciel.
Ouais.
Et donc, c'est un peu comme si on prenait... C'est un peu une analogie, mais si vous regardez un objet, tout d'un coup, bon, vous l'aviez regardé, par exemple, avec vos yeux, et puis tout d'un coup, vous allez le regarder avec des rayons X ou je ne sais pas, enfin une autre... Donc, vous avez une autre sonde, donc vous avez une autre image. Et finalement, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ces deux images collent entre elles? Est-ce qu'elles révèlent finalement bien le même objet? Et vous, quand on fait ça, en fait, on utilise toujours un modèle. Il y a toujours une sorte de modèle qui permet de relier les deux vues. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est que non seulement on avait validé l'année dernière, disons, les grandes idées théoriques sur cette histoire, mais ça permettait aussi de faire des prédictions très précises de ce qu'on mesurerait si nos idées générales sont correctes, le jour où on fera la mesure de la polarisation. Aujourd'hui, on commence à lever le voile, on va dire. Ce n'est pas la fin de l'histoire, on a encore du travail à faire. Mais ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est que c'est très largement cohérent. Et donc, grâce à cette vue un peu complémentaire, on commence aussi à être capable d'exclure d'autres hypothèses qui étaient un peu spéculatives. Puisqu'on joue beaucoup à la question de qu'est-ce qui se passe si ? Et si ceci était vrai ? Et si ceci était... Et donc, notre travail, c'est de regarder la trace de ces hypothèses-là. On va regarder dans les données si on n'a pas une trace ou une petite fêlure qui ressemble à ça.
Donc, cette polarisation, c'est quoi ? C'est une nouvelle propriété de la lumière ?
Alors, c'est une nouvelle propriété au sens de la mesure. La lumière c'est une des propriétés intrinsèques de la lumière, mais simplement, on en parle moins couramment parce que notre œil n'est pas directement sensible à la polarisation. Il faut un appareillage pour révéler cette propriété de la lumière. Alors, cet appareillage peut être simplement certaines lunettes de soleil qui sont dites polarisées.
Oui.
Donc, en fait, on se rend compte que la lumière peut avoir une direction. Quand on la reçoit dans le plan du ciel, si vous regardez loin de vous, vous pouvez voir, en fait, il y a une direction. Mais en général, toutes les directions sont superposées. Et donc, en fait, la lumière est dite non polarisée. Bon. Donc ça se révèle, mais il faut un appareillage pour ça. C'est pour ça qu'en général, on n'en parle pas. Mais c'est une propriété qui est là tout le temps.
Est-ce que vous avez du nouveau sur la matière noire, François Boucher ?
Alors, incroyable, mais vrai.
C'est-à-dire ?
Oui, eh bien, à titre d'exemple, des genres de choses qu'on peut faire, on peut se poser la question de savoir est-ce que la matière noire peut s'annihiler ? Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous vous posez cette question-là ? Il se trouve que, comme on n'en connaît pas grand-chose sur les propriétés de la matière sombre, il arrive que quand il y a une expérience qui donne des résultats un peu bizarres ou un peu surprenants, on se pose la question, on se dit, mais est-ce que ça pourrait être pas, est-ce que je ne suis pas en train de voir la trace de l'annihilation de la matière sombre ? Par exemple, dans les données de l'expérience AMS ou Pamela ou Fermi. Et donc, c'était une des explications pour quelque chose qui était un peu surprenant.
Mais comment ça peut s'annihiler si c'est
alors,
la matière
ça peut être une propriété. Hein. Ah oui, mais il y a beaucoup une particule, ils sont antiparticules, ça peut s'annihiler. Donc, il y a beaucoup de particules où c'est le cas. Et donc, on s'est dit, est-ce que finalement, si ça s'annihile à la vitesse qu'il faudrait pour expliquer ces données, est-ce que ça se verrait dans les données Planck ? La réponse est oui, et on peut dire, non, ce n'est pas la bonne explication. Voilà, donc on a, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres explications potentielles, ça ne veut pas dire que la matière noire ne peut pas s'annihiler. Elle ne peut pas s'annihiler au rythme nécessaire.
On ne sait toujours pas très bien ce que c'est, quoi, quand même, la matière noire.
Ah non, on précise la quantité qu'il y a, mais on ne l'a toujours pas détectée.
Donc ça reste un des grands mystères.
Grand mystère, et raison de plus pour que chaque fois qu'on a un petit bout d'information supplémentaire, qu'on la met un petit peu plus dans un coin, on est très très content.
Bon, sur les neutrinos,
on a un peu joué au même jeu. On s'est dit, finalement, les neutrinos, ils participent de cette soupe dans laquelle il y a les premiers grumeaux qui se développent. Et donc, dans les calculs, on doit dire des choses du genre combien d'espèces de neutrinos, quelle est leur masse, et puis est-ce qu'ils se comportent, disons, comme des particules... libre. Tout ça rentre dans les calculs. Mais on peut se dire, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas comme dans le modèle standard ? Et là aussi, on est allé regarder et on a des contraintes qui disent, c'est pile poil comme on s'y attendait.
Bon, Isabelle Autissier, terminer.
Pourquoi il y a des grumeaux ? Parce que...
Alors ça, c'est une grande
question. Moi, quand je fais des crèmes, j'essaye de ne pas faire de grumeaux. Hein. Je délaye bien. Alors, c'est pas bien délayer l'univers ?
Les grumeaux, il y en a parce que nous, on est là. On est là. Donc, on d'où ça vient? Donc, quand on remonte... Ben oui, enfin, en tout cas, on est des fils de grumeaux ou des filles de grumeaux. On n'est pas simplement les enfants des étoiles, on est aussi les enfants des fluctuations qui ont donné lieu aux étoiles. Alors, justement, notre question, nous, de cosmologues, c'est de se dire, mais enfin, ça a commencé comment? Ces grumeaux, ils viennent d'où? Et donc, ce qu'on essaye de... On a d'abord développé différents types de théories. On en a exclu beaucoup. Et il y en a une qui, pour le moment, marche très bien, qui fait appel à une phase d'inflation, où là, ce n'est pas qu'on le veuille ou non, mais qui montre que, bah, finalement, il y a une époque, très tôt dans l'histoire de l'univers, qui naturellement produit, disons, des grumeaux. Et c'est bon. Ça qu'on cherche à valider.
Et ça ne vous empêche pas de nous faire des crêpes, d'ailleurs, Isabelle Autissier, tant qu'à faire. Voilà, donc les dernières nouvelles de Planck, et puis celles qui vont arriver, qui seront publiées donc, courant 2015, hein, François Boucher.
Absolument.
Puisque, évidemment, c'est extrêmement important. Et vous travaillez aussi avec les équipes de Bicep 2, on en avait parlé sur l'antenne, autour des ondes gravitationnelles. Hein. Il y a un petit travail en commun, quand même, maintenant.
Oui, alors, c'est en deux phases. On a commencé par regarder dans nos données, de savoir s'ils n'avaient pas un peu été trop rapides. Oui. Et la réponse est oui. On ne peut pas encore dire qu'il y en
ils
a
ont pas fait
des ondes gravitationnelles.
Primordial,
donc ça c'est pas encore fait. Maintenant, réponse dans le courant de l'année prochaine.
Allez, fils et filles de grumeaux, restez avec nous. Dans un instant, Isabelle Autissier nous emmène sur la nouvelle route maritime en passant par le Nord. Sure Thing avec Saint-Germain sur France Inter.
La tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
Isabelle Autissier, ingénieure halieutique, navigatrice et présidente de la fondation WWF France. Vous publiez donc avec Eric Orsena, Passé par le Nord aux éditions Paulsen. Vous aimez les antipodes avec Eric Orsena, effectivement.
On aime bien le froid, on aime bien la glace. On, je ne sais pas, ça doit être parce qu'on boit des petits coups pour se réchauffer.
Oui, apparemment, vous avez pas mal picolé quand même pendant votre voyage.
Non, pas du tout.
Bon, alors attendez, moi j'ai des preuves. Hein. Franchement, page 152, que celles et ceux qui jettent volontiers la pierre aux alcooliques, que celles et ceux qui n'ont jamais ressenti le besoin urgent d'une longue gorgée de vodka, prennent un jour l'avion pour Mourmansk. Ils comprendront que pour lutter contre la désespérance, tous les moyens sont bons, notamment les boissons fortes.
Non mais Mourmansk, c'est quand même, voilà, tous ceux qui connaissent Mourmansk comprendront.
C'est pas l'endroit le plus joyeux au monde quand même.
Ah, c'est assez terrifiant. Ouais.
Ouais,
c'est
il faut prendre un petit coup pour. Qu'est-ce qui se passe à Mourmansk?
Bah, déjà quand on sort de l'avion, là c'était surprenant, en plein hiver il faisait pas froid, il faisait à peine moins 1,
c'est ça.
Et puis surtout la neige est noire, quoi. Donc elle est noire de pollution, de poussière de charbon. Donc on n'ose pas imaginer les bronches des 300 000 habitants de Mourmansk. Et puis c'est comme ça partout, quoi. Mmh. Donc comme entrer dans le Grand Nord, c'est un peu terrible.
Ouais. Alors cette route du Grand Nord, cette route maritime, il faut l'évoquer parce qu'il y a des enjeux géopolitiques, écologiques très importants, évidemment. C'est une route qui est en train de s'ouvrir à cause du réchauffement climatique, d'ailleurs,
directement. Bien sûr. Hein. En fait, le Grand Nord se réchauffe 2,5 fois plus vite que le reste de la planète. Donc bien sûr, la glace aujourd'hui sur les côtes russes en été, c'est à peine 10% de ce que c'était il y a 20 ou 25 ans. Donc aujourd'hui, l'été, il n'y a plus de glace. Il y a de temps en temps, selon les années, un petit bouchon qui reste. Mais voilà, donc tout de suite, tout le monde a dit chic, quelle bonne idée, quelle bonne chose. Oui. On va pouvoir gagner beaucoup de temps, effectivement, par exemple avec un conteneur entre la Chine et Rotterdam.
Et c'est beaucoup d'argent qui sont économisés dans ces cas-là.
On va gagner 10 jours, 12 jours, 15 jours. Et bien sûr, ça nous a intéressés. On a été gratté un petit peu, on va dire. Et on s'aperçoit que ce n'est pas si vrai que ça. Et il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'on a une côte où il n'y a rien. C'est-à-dire, sur 6000 km de côte sibérienne, il y a 3 villes de 5000 habitants.
Il ne faut pas tomber en panne.
Voilà, il ne faut pas tomber en panne. Il ne faut pas avoir un problème avec son bateau. Donc voilà, donc déjà, c'est un problème. Deuxième problème, c'est que la plupart de ces porte-containers, ils aiment bien faire du business. Ils ne font pas la route en direct, ils s'arrêtent plusieurs fois. Et là, on ne peut pas trop s'arrêter, puisqu'il n'y a pas de business à faire, il n'y a pas de port, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de... Voilà. Dernier point, sans parler du coût éventuel des assurances, c'est qu'on se met un petit peu dans les pattes des Russes, quand même, qui aujourd'hui, bien sûr, maîtrisent cette route avec leur brise-glace, avec leur bateau, avec les bases qu'ils sont en train de reconstituer dans les îles qui bordent cette route du Nord. Tout le monde n'a pas forcément envie de s'y mettre. En ce moment même, d'ailleurs, par exemple, les bateaux européens seraient peut-être pas forcément très bienvenus. Et puis surtout, nous, ce qui nous a, au bout d'un moment, sauté à l'esprit, c'est qu'au fond, dans... Parce que les Russes sont en train d'investir énormément sur cette route.
Pour faire il y a des ressources.
Voilà, il y a des ressources colossales en pétrole, en gaz. Et puis, ils espèrent beaucoup du passage. Et en fait, on se rend compte que... À la vitesse où ça va, vers 2030, par là, on pourra passer directement par le Nord, mais par le pôle Nord. Que là, on gagnera encore plus de temps et qu'on sera dans une mer, dans des eaux internationales et qu'on n'aura pas de compte à rendre à personne. Et s'il y en a qui s'en sont aperçus, c'est les Chinois, puisque les Chinois, ils sont en train d'investir où ? En Islande. Parce que quand vous faites Shanghai, Détroit de Bering, pôle Nord, dans la ligne directe, vous arrivez en Islande. En Islande, c'est le hub parfait pour avoir d'un côté l'Europe, de l'autre côté les États-Unis. Donc on voit que la géopolitique est en train de suivre le climat, mais pas tout à fait la façon dont on pensait.
Le détroit de Bering, c'est amusant, parce que c'est un peu les États-Unis et la Russie qui se tiennent par la barbichette. Ils sont là à combien de kilomètres de distance?
C'est quelques kilomètres, puisque les deux îles diomèdes, il y en a une russe et une américaine. Il y a moins de 3000 entre les deux, donc c'est vraiment tout proche. Aujourd'hui, ce n'est pas encore un grand passage maritime. Il y aura des bateaux, et en particulier, je pense, les bateaux qui vont être chargés du gaz et du pétrole russe qui vont descendre vers l'Asie. Et eux, il faudra qu'ils empruntent ce détroit de Bering.
Vous avez navigué concrètement avec Orsena, Isabelle Autissier, sur ce passage du Nord ou pas ?
On a navigué dans la partie américaine. Nous ne sommes pas allés naviguer dans la partie russe. D'abord, c'est beaucoup plus difficile d'avoir les autorisations et la possibilité de le faire.
Et dangereux aussi, non ?
Dangereux. Enfin, à la rigueur, on pourrait trouver un bateau qui soit un peu... Voilà, avec une bonne sécurité. Mais surtout que ça ne présentait pas un intérêt déterminant pour ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire comprendre. Il était plus intéressant d'aller voir les gens et de discuter avec eux. Sinon, vous allez vous retrouver sur un bateau beaucoup dans le brouillard. En été, il y a beaucoup de brouillard. Vous allez voir 2-3 glaçons dans les coins, mais pas beaucoup en été, et apercevoir quelques côtes basses, etc. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment comprendre. Donc, c'était plus essentiel de rencontrer les gens.
Comprendre, et puis aussi évoquer quand même l'histoire de tous ces pionniers qui vous ont précédé, parce qu'il y a quand même eu des navigateurs courageux.
Alors, nous, on n'est absolument rien, évidemment. Ce qui est fascinant, c'est que cette route du pôle, que ce soit d'ailleurs la route calandienne ou la route russe, on voit... périodiquement des sortes d'assauts et les hommes sont attirés par ces extrêmes. Oui. D'abord par les richesses potentielles. Avant, c'était les fourrures, aujourd'hui, c'est le pétrole. Mais aussi par ce mythe du passage et du raccourcissement des distances, finalement, évidemment. Quand plus on passe par le pôle, plus on est près du pôle, plus on raccourcit les distances.
Ouais, vous racontez justement la vie du Danois Vitus Bering.
C'est hallucinant.
Ils ont vécu dans des conditions mais de dingue.
Bering, il va faire deux voyages. Il faut d'abord traverser la Russie. Donc la première fois, il met 3 ans à traverser la Russie pour aller construire des bateaux à Petropavlovsk. La deuxième fois, il met 8 ans.
Oui.
Rien que pour faire le voyage et pour aller construire les bateaux, parce qu'il est hors de question de les amener, pour aller les construire donc dans ce qui va devenir plus tard Petropavlovsk. Oui. Et déjà, ça, c'est hallucinant. Et après,
ils ont tellement froid qu'ils s'enterrent dans le sable, les pauvres. Hein. Bah, c'est épouvantable.
Ça se passe mal. Donc, ils vont quand même arriver jusqu'en Amérique. Ils vont rester 2 heures. Parce qu'ils sont tellement pressés de repartir, ouais. Ça a été tellement difficile d'arriver qu'ils ne veulent pas rester longtemps. Ils auront énormément de mal à revenir. Ils vont faire naufrage sur une île où là, il n'y a rien. Et effectivement, Bering va mourir, enterré dans le sable, dans cette île, mourir de froid et de faim. C'est des destins terribles.
Joël Swanson.
Après une expérience comme ça qui marque la vie, je ne peux que poser la question, c'est quoi la suite? Après avoir fait le Grand Nord, qu'est-ce qu'on peut faire? J'imagine que le tour des îles du Caraïbe, ça ne porte pas grand-chose après.
Mais... Non, c'est sûr qu'en termes de navigation, parce que là, c'est vrai qu'on a navigué, mais ce n'était pas une navigation forcément extrêmement complexe. On n'a pas fait le passage. Après, il y en a toujours. Vous savez, la mer, elle est partout complexe et partout difficile. Et puis, dans ce qu'on fait avec Eric, notre souci, c'est de montrer comment nous sommes reliés avec toute la planète. Et comment, par exemple, ces territoires du Grand Nord, comme avant on l'avait fait pour l'Antarctique, nous concernent, qu'on le veuille ou non. On a l'impression que c'est très loin sur une carte, un petit trait blanc là-bas, mais pas du tout. Ça va considérablement impacter le climat européen, bien sûr le prix du pétrole peut-être, sûrement des questions de pollution, mais des questions aussi d'écosystèmes, de pêche par exemple, la morue qui vient de là-bas, est-ce qu'on va continuer à la pêcher ou pas? Enfin, il y a beaucoup de choses qui finalement nous concernent et donc finalement, toute destination est la bonne.
Oui. Mmh.
Parce qu'on arrive toujours à faire comprendre aux gens comment nous sommes reliés à la fois à la nature et à la fois aux hommes un peu partout.
François Boucher. C'est le chemin qui compte.
C'est le chemin qui compte, dit François Boucher. Ouais. Et les effets du réchauffement climatique, concrètement, vous les avez bien enregistrés?
Alors, les effets, on les connaît avec la fonte de la banquise et le rétrécissement, bien sûr, en épaisseur et en étendue de la banquise. On le voit aussi dans la vie animale. Vous savez qu'en mer, le plancton, par exemple, galope de 470 km par décennie. Donc, au fur et à mesure que ça se réchauffe. Donc, c'est colossal. Le plancton, il est à la base des chaînes alimentaires. Donc, on comprend bien que tout va être complètement remis en question et complètement déstabilisé dans ce Grand Nord qui va peut-être prendre entre 6 et 10 degrés d'ici la fin du siècle, nous dit le GIEC.
Des portraits de morses, par exemple, ou l'art d'être laid. Hein. C'est vrai que le morse, c'est quand même un sac de graisse de 3 mètres de long. Hein.
Bah, c'est pas très joli comme ça. Pourtant, moi, je le trouve assez attendrissant. Et le morse a un rôle considérable dans l'écosystème, puisqu'avec ses grandes canines, il fouille le sédiment et remet un certain nombre d'éléments en suspension qui vont permettre de nourrir le plancton. Donc, on voit bien que dans les écosystèmes, tout le monde tient tout le monde par la barbichette.
Oui.
Et que s'il y a un animal qui s'écroule ou une famille d'animaux qui s'écroule, ça peut vraiment provoquer des catastrophes environnementales.
Un petit joyau du froid, c'est l'île de Wrangel.
Oui, l'île de Wrangel qui est alors la plus à l'est de la Russie. Elle est toute proche du Pacifique, c'est un joyau parce qu'elle est très variée. Et de la diversité des climats et de la géologie tient la diversité de la vie et donc la résilience de la vie. Ça, c'est vrai pour la planète entière, mais c'est très visible à Wrangel, qui est effectivement un joyau de biodiversité.
Et c'est là qu'on aurait vu les derniers mammouths.
Oui, des petits,
ils
étaient tout petits.
Il y a 2 ou 3 000 ans seulement.
Hein. Voilà.
On a l'impression qu'ils ont disparu il y a 10 000 ans, et à Wrangel, il y en avait encore.
Il y en avait qui avaient rétréci de taille, comme d'ailleurs beaucoup d'animaux sur la planète, et qui étaient devenus des sortes de mammouths nains, peut-être pas
c'est
de
ça.
Sac à main,
c'est
mais
ça.
En tout
les
cas...
Laineux, les, petits, voilà. Les petits laineux, en tout cas. Mais c'est vrai, et du haut des pyramides, à cette époque, on aurait pu apercevoir les mammouths. Voilà, passé par le nord, prête à repartir donc Isabelle Autissier.
Ah bah oui, un petit tour au Groenland cet été.
Ah bah oui, histoire d'eux quand même. Il fera quelle température a priori à cette époque?
Oh, c'est l'été, il fait 0.
Voilà, la nouvelle route maritime, édition Paulsen. Ce récit donc d'observation et puis d'histoire aussi hein, sur ces grands noms de cette région du monde avec Eric Orsena de l'Académie française.